20, c'est le nombre de kilomètres jusqu'auxquels vont s'approcher les manœuvres militaires chinoises. Elles sont censées se terminer ce dimanche. Valérie Niquet, c'est de l'intimidation ou on peut déjà parler d'une intervention militaire?
Bah, oui, c'est peut-être les deux. Enfin, c'est pas vraiment. Ce sont des exercices. Donc, officiellement, les Chinois n'ont pas déclaré la guerre ni à Taïwan, ni aux États-Unis, ni à leurs alliés. Mais c'est évidemment de l'intimidation. Et on le voit avec les tirs de missiles au large de Taïwan, s'approcher des côtes chinoises. Alors, 20 kilomètres, ce ne sont pas les eaux territoriales. Ils n'entrent pas dans les eaux territoriales chinoises. On en est très près, mais on reste prudemment aux limites de ce qui est permis. Oui, de l'intimidation, très certainement.
Mais est-ce que la Chine aussi n'aurait pu ne pas réagir? Ou tout simplement, vraiment, à partir du moment où Nancy Pelosi posait le pied sur l'île, c'était pour eux véritablement une provocation et elle aurait pu laisser passer?
Au regard du régime actuel, non. Il se devait de réagir, il se devait de faire une démonstration de force qui va durer, comme vous l'avez précisé, au moins jusqu'à dimanche, à voir ce qui va suivre dans les prochaines heures et les prochains jours. Non, il se devait de réagir avec un clic au-dessus de ce qui avait pu se produire dans le Détroit en 95-96, toujours dans la cristallisation des relations entre Washington et Pékin. Ils réagissent de manière très agressive, en changeant d'échelle, une plus large échelle, et en mobilisant des moyens militaires qui sont nouveaux, plus modernes. Reste à savoir la qualité et la manœuvrabilité de ces moyens militaires, donc à faire à suivre.
Alors vous en parlez aujourd'hui, Hong Kong a été mis au pas par la Chine après les manifestations, les immenses manifestations, magnifiques manifestations de 2019. Et il y a donc un véritable enjeu démocratique. Je veux dire, il y a vraiment, pour le coup, Taïwan est vraiment le dernier tenant d'une version de la démocratie qui est extrêmement vibrante. C'est ça auquel Nancy Pelosi vient rendre hommage à Taïwan. Et il y a vraiment là, pour le coup, un enjeu très, très clair, puisque Hong Kong ne fait même plus partie, enfin dire, des contre-exemples qu'on pourrait présenter au monde.
C'est ça, Frédéric.
Emmanuel Véron, entre-temps, en plus, effectivement, la Chine, depuis 1997, est devenue la première puissance navale militaire du monde.
Alors, première puissance, a priori, non. C'est effectivement les éléments de langage ou de propagande, en fait, que présente le régime chinois pour galvaniser sa propre population, pour montrer sa trajectoire de puissance. Dans la première flotte de combat en tant que telle, c'est bien les États-Unis, encore pour un moment. Néanmoins, effectivement, à peu près deux générations, la Chine a su mettre à l'eau un certain nombre de navires. Alors, on rappelle souvent que c'est à peu près l'équivalent de la flotte française, 400 000 tonnes de bateaux à l'eau tous les ans, ce qui est formidable, avec programme de sous-marins, programme de porte-avions, programme de destroyers, etc., etc. Donc, à peu près tout le panel d'une marine de guerre moderne. La question est de savoir, est-ce qu'ils savent utiliser ces armes? Est-ce qu'ils savent les faire interagir avec d'autres composantes aériennes ou terrestres?
D'où les exercices.
Valérie Niquet, Joe Biden et Xi Jinping se sont eus au téléphone, c'était fin juillet, ils avaient convenu d'une rencontre. Est-ce qu'à votre avis, la visite de Nancy Pelosi compromet ce timide rapprochement?
Pour le moment, oui, évidemment, d'autant plus qu'au cours de cet entretien téléphonique, Xi Jinping avait demandé à Joe Biden de faire en sorte que Nancy Pelosi n'aille pas. Il n'a pas très bien compris la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif aux États-Unis. Mais ce que font les Chinois aujourd'hui avec ces exercices, je voudrais juste revenir un moment. Les exercices militaires dans les années 95-96, c'était exactement la même logique, pas contre Greenwich, ça avait eu lieu avant, mais pour empêcher le président taïwanais de se rendre aux États-Unis. Donc, de toute façon, d'une manière continue, la Chine utilise la pression commerciale ou militaire pour tenter d'obtenir que les autres se plient finalement à ses volontés. Et le danger, si les États-Unis avaient cédé, c'est évidemment d'aller de plus en plus loin dans les exigences jusqu'à un moment où on ne pourrait plus accepter.
Il faut bien comprendre qu'il y a environ un millier d'incursions chinoises tous les ans, en territoire ou en eau territoriale ou en espace aérien taïwanais. Donc, ça, si vous voulez, je ne dis pas que celles-là sont un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, elles sont extrêmement spectaculaires, surtout parce qu'elles sont à balles réelles. En fait, si on regarde la nomenclature de ce que c'est qu'un acte de guerre, ce que sont en train de faire les Chinois en ce moment, en faisant des essais très très près des côtes taïwanaises, à balles réelles, c'est un acte de guerre, ce qu'on appelle un blocus maritime, parce que les bateaux ne peuvent plus sortir et parce que le port de Taipei, par exemple, qui est le plus important, enfin, y compris le port d'à côté, qui est le plus important de l'île nationaliste, eh bien, ne peut plus fonctionner. Donc, mais cela dit, on voit bien le dilemme, c'est-à-dire, il faudrait que les Taïwanais reprennent cet acte de guerre pour ce qu'il est, le déclarent et fassent la guerre. Personne n'a envie de faire la guerre dans la région.
Oui, c'est ça, Frédéric.
Et il y a le contexte également avec la guerre en Ukraine, cette géopolitique qui change. Qu'est-ce que ça change au contexte et à la perception de ce cas taïwanais, selon vous, Emmanuel Véran? Alors,
probablement que la guerre qui s'est intensifiée, qui a là aussi changé d'échelle et d'ampleur depuis février dernier en Ukraine, a entraîné de la part de la société taïwanaise, mais aussi des instances de sécurité, des armées et des instances de gouvernance de Taïwan, beaucoup plus de préparation et une intense observation de ce qui se passe pour éventuellement transposer des exemples de défense, de matériel, etc. etc. Donc il y a une sorte de réveil, hein, c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine, directement transposée au détroit de Taïwan et à l'île de Taïwan en cas d'invasion militaire chinoise.
Et côté Pékin ?
Et côté Pékin, bien évidemment, ils regardent tout. Et probablement qu'une des raisons de ce qu'on observe aujourd'hui et dans les prochains jours est aussi cela, c'est-à-dire ça amplifie la démonstration de force de Pékin vis-à-vis de Taïwan, vis-à-vis des Japonais, vis-à-vis des États-Unis, voire...
Avec l'idée que les États-Unis ne peuvent pas être, j'allais dire, sur tous les fronts.
Alors, c'est la question d'ouvrir un deuxième front. Mmh. Effectivement, ça reste un énorme sujet, bien sûr. À ce stade, on n'a pas de front, comme on peut le voir, de haute intensité, j'entends, d'hybridité, de cyber, etc., on est bien dedans, de guerre cognitive, de guerre psychologique, on est bien dedans. On n'est pas sur un deuxième front de haute intensité, mais le risque est trop grand encore aujourd'hui, pour Xi Jinping et le Parti communiste chinois, de conduire une guerre de haute intensité, très sophistiquée, interarmes, dans le détroit de Taïwan et pour contrôler l'île.
Là, la guerre en Ukraine a eu une vraie influence, parce qu'auparavant, la réponse en général, quand on interrogeait les jeunes Taïwanais, 50% d'entre eux disaient qu'ils n'étaient pas vraiment prêts à se battre pour Taïwan, mais à 80%, ils n'imaginaient pas un conflit avec la Chine de toute manière. La guerre en Ukraine a véritablement galvanisé les Taïwanais, qui déjà sont très fiers de leur démocratie, c'est un vrai modèle en Asie, hein, et surtout dans le monde chinois. C'est ça qui agace profondément Pékin. D'ailleurs, Taïwan est un défi idéologique. Et je pense que, de toute manière, débarquer à Taïwan pour la Chine, ce serait difficile. Mais ensuite, envahir toute l'île, c'est des montagnes, hein, essentiellement.
C'est un conglomérat.
Voilà, c'est très, très compliqué à tenir. Et avec une population qui serait sans doute très hostile. Donc, les Taïwanais ont plus intérêt à défendre leur démocratie que les jeunes Chinois à se battre ou à mourir pour Taïwan, alors qu'ils sont face à d'autres préoccupations en Chine même.
C'est bien joué. Ce qui est fascinant, ça, en fait, c'est que chacun des deux belligérants, on pourrait dire Taïwan comme la Chine, regarde de son côté. C'est-à-dire que les Taïwanais regardent du côté ukrainien comment les Ukrainiens résistent. Et par exemple, on remarquait qu'il fallait une défense territoriale et qu'il était peut-être temps justement d'organiser maintenant une véritable défense territoriale, ce dont vous parliez. Et par ailleurs, ils anticipent. Et par ailleurs, ils se disent que finalement, peut-être il serait bon d'avoir quelques tanks, quelques équipements blindés, comme ce qui manque aux Ukrainiens en ce moment pour résister aux Russes. Par ailleurs, les Chinois, eux, regardent du côté russe parce que tout simplement l'armée de libération populaire est une photocopie de l'armée russe, d'une certaine façon, et voient bien que ce qui manque aux Russes, c'est que les Russes rencontrent des problèmes de logistique que la Chine pourrait rencontrer dans le même cas, et que par ailleurs, il y a aussi des problèmes de commandement, de chaînes de commandement qui sont à la Russe, avec très peu de flexibilité. Donc chacun est en train de réformer, de regarder ce qui s'y passe, et ça ne donne pas forcément envie ni aux Chinois, ni aux Ukrainiens de faire la guerre, ni aux Taïwanais de faire la guerre tout de suite.
Et Emmanuel Véran, est-ce que Taïwan aujourd'hui a les capacités justement de se défendre? Est-ce que c'est une armée importante, Taïwan? Alors,
non, enfin c'est une armée importante. Au regard des enjeux d'une potentielle invasion militaire, non, a priori non, parce que c'est très marqué par la symétrie entre les moyens taïwanais, au sens strict national du terme, et les moyens Chine populaire, la Chine communiste. D'où les alliances, le réseau d'alliances et les garanties de sécurité, ce qu'on n'a pas encore abordé, avec les États-Unis du Taiwan Relations Act de 1979.
C'est-à-dire qu'ils livrent des armes?
Armes, armement, entraînement, services spéciaux, sécurité, soutien cyber, logistique, etc. Donc c'est effectivement de grande ampleur. La question est de savoir, en cas de crise, en cas de guerre, en cas de haute intensité, quel est le degré et la qualité du soutien américain.
Voilà,
jusqu'où ils iront. On le voit avec la situation ukrainienne. Donc l'armée taïwanaise se modernise, est compétente, s'entraîne, regarde, fait des mises à jour. A priori, il ne fait pas la guerre comme la France le fait au quotidien, ou les États-Unis, etc. La Chine non plus. Mais au regard du différentiel de la quantité, non pas de la qualité, de la quantité, le rapport de force est très défavorable en direction de Taïwan. Le poids du nombre compte encore énormément dans l'ADN du Parti communiste chinois et dans ses stratégies de défense.
C'est ça. Alors Frédéric, on va voir que l'arrivée de Nancy Pelosi sur l'île, c'était mardi, donc a provoqué des manifestations.
Oui, il y a eu des manifestations de joie, d'accueil, et puis il y a aussi des manifestations plus hostiles. Il y a eu un rassemblement d'ailleurs devant l'hôtel où a séjourné Nancy Pelosi à Taipei. Écoutez, lui.
Il est très favorable aux indépendantistes. Il y a à peine 5% des Taïwanais qui se déclarent en faveur d'une réunification. Alors, Alors l'immense majorité est plutôt favorable au statu quo, c'est-à-dire qu'ils sont, comme la présidente Tsai Ing-wen, très raisonnables. Ils savent bien que s'ils déclarent l'indépendance, évidemment, c'est un casus belli avec Pékin. Ce qu'on voit là, ces manifestations, ça fait partie de cette guerre de l'information et d'influence que mène la Chine à Taïwan. Il y a des groupuscules très peu nombreux, des petits partis qui sont directement soit créés, soit financés, soit dans la main de Pékin et qui sont là pour essayer de pousser contre les indépendantistes, contre la présidente, manifester en faveur de la Chine, mais qui représentent très peu, de moins en moins d'ailleurs, puisque les Taïwanais qui sont tout à fait prêts à faire du business avec les Chinois, avoir des relations plutôt apaisées avec la Chine, il ne faut pas oublier que c'est encore les premiers partenaires commerciaux de la Chine. La Chine a énormément besoin de Taïwan parce que les microprocesseurs de très haute qualité, il y a un embargo aujourd'hui en raison des États-Unis, mais viennent de Taïwan et pas du tout de Chine.
Ils ne sont pas capables
de les fabriquer. Donc il y a des liens, mais il n'y a pas du tout d'envie d'être unifié, entre guillemets, avec un régime comme celui qui existe en Chine aujourd'hui.
Voilà. Vous en parliez notamment des semi-conducteurs, d'un point de vue économique. En fait, quel intérêt pour la Chine de se tirer une balle dans le pied, finalement ?
En fait, ce qui est fascinant de voir, c'est que la Chine paraît riche comme ça de l'extérieur, parce que ça fait partie des choses, mais si vous y divisez son PIB par le nombre d'habitants, on tombe assez bas, on tombe même pas au niveau de la Roumanie. Alors que Taïwan, elle, est une véritable société développée, riche, et qui s'est enrichie depuis très longtemps, et qui en plus est complémentaire de nos sociétés, de nos économies occidentales. Pendant des années et des années, le PIB taïwanais était supérieur au PIB chinois, jusqu'il y a très peu de temps, en fait. Alors, la croissance de la Chine est spectaculaire, on voit bien qu'elle a beaucoup augmenté sa puissance, mais il y a
envie de s'approprier Taïwan pour ces raisons-là économiques.
Je pense que non, c'est vraiment des raisons politiques et des raisons consubstantielles au régime chinois. D'abord parce que le régime de Mao s'est clairement défini contre le régime de Chiang Kai-shek en 49 et que la réunification voudrait dire la victoire définitive, absolue, complète, d'un point de vue idéologique, de la Chine populaire sur le monde chinois.
Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan.
Le nationaliste. D'ailleurs, la Taïwan s'appelle toujours République de Chine, comme s'appelait la Chine en 2012, avant que les Chinois, les communistes ne la reprennent. Il y a un véritable enjeu pour le Parti communiste chinois qui est objectivement de montrer au monde qu'il n'y a qu'une façon de gouverner les Chinois, c'est à la façon du Parti communiste chinois. Et Taïwan est un véritable défi, vous le disiez tout à l'heure et vous aviez parfaitement raison, à cette vision unipolaire de la Chine. Il y a encore un petit pays, quand même, qui est un autre modèle, qui est Singapour, qui est un système de parti unique, mais qui est encore un peu différent.
Emmanuel Véran.
Oui, je rajouterais sur votre question, la question des technologies est un des gros sujets dans l'idée stratégique de Pékin de récupérer Taïwan. Parce qu'on récupère les ingénieurs, le savoir-faire, ils sont très 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 loin devant, les ingénieurs même sud-coréens ou en Europe ou ce que l'on peut trouver aux États-Unis. Donc c'est la vraie plus-value aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la stratégie internationale de Taïwan. Et il y a un autre sujet, c'est la dimension géographique de Taïwan et la profondeur qu'elle donne sur le Pacifique avec les sous-marins. Et si la Chine populaire récupère Taïwan, c'est le sujet qui est de ce soir, mais pour les 10 prochaines années au moins encore, c'est que la Chine pourrait installer une base de sous-marins nucléaires et pour les diluer en toute discrétion et avoir un avantage stratégique sur les États-Unis dans le bassin Pacifique.
C'est ça, Valérie Niquet, l'intérêt des Américains, il est purement pour la démocratie sur place ou alors il y a d'autres intérêts ?
Non, mais il y a des intérêts. Si Taïwan était envahi par la Chine, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas de si peu, et peut-être que la Chine changera même avant que Taïwan ne tombe du côté chinois, ce serait un bouleversement stratégique majeur dans la région. Ça voudrait aussi dire que les États-Unis ne sont pas capables de défendre leurs alliés. Ça mettrait en question leurs accords de sécurité avec le Japon, avec la Corée du Sud. Donc ce serait, en termes stratégiques, géostratégiques, d'équilibres régionaux, très grave. En plus, le détroit de Taïwan, la mer de Chine du Sud, comme on le sait, c'est une des principales voies de communication. Donc si ça devenait un lac chinois ou une mer contrôlée véritablement par la Chine, il y aurait des conséquences considérables. Oui. Pour revenir juste sur le contrôle des microprocesseurs, envahir Taïwan ne signifie pas en prendre possession. Les brevets sont aux États-Unis, on peut détruire les usines à Taïwan et déplacer la fabrication ailleurs.